11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le meilleur de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Comme tous les week-ends, je vous ai sélectionné tous les moments forts qui ont marqué cette semaine. Et on va commencer tout de suite avec notre humoriste Walter. Jeudi, dans le Grand Matin Sud Radio, il nous a prouvé son intérêt pour la fantaisie, en particulier pour l'œuvre de l'artiste Maurizio Catlan, vendu 120 000 $, la banane scotchée à un mur. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Vous avez l'air en forme plus que d'habitude.
Oui, je suis très en forme. Ouais. Bonjour Cécile.
Mais non,
mais évidemment que je suis en forme. Évidemment, autour de moi, il y a des gens brillants que j'admire. Il y a aussi Patrick Roger. Et c'est rigolo de dire ça. C'est rigolo.
Allez, on y va, on parle de quoi
ça commence,
alors on va parler de fantaisie. Vous savez que j'aime la fantaisie. Cécile, du coup, j'ai à un moment pensé évoquer le discours d'Angela Merkel à Auschwitz. Mais je me suis dit, c'est pas rigolo. On va plutôt parler d'une banane sur un mur. Oui. Voilà, la fameuse banane que l'artiste italien Maurizio Catlan, je sais pas comment on prononce, a vendu la semaine dernière pour 120 000 €. Attention, quand je dis ça, j'ai rien contre Angela Merkel. Son discours sur la Shoah était très à propos, mais on va pas se mentir, une bonne banane scotchée sur le mur d'une galerie d'art, c'est quand même plus marrant qu'un camp de concentration. Déjà rien que le mot banane, c'est marrant, quoi. Banane, on peut faire des blagues. Monsieur et Madame Grosban ont une fille, comment appelle-t-il ? Anne, grosse banane. Évidemment, c'est marrant. Et cet artiste est marrant. D'ailleurs, c'est pas le premier truc drôle qu'il fait. C'est pas le premier truc drôle qu'il fait, puisqu'il avait auparavant, cet artiste, déjà fabriqué un trône en or. Et quand je dis trône en or, ne pensez pas immédiatement à président turkmène ou dictateur africain.
Non.
C'était des chiottes fonctionnelles en métal précieux, une œuvre d'art. Alors déjà là, tu te dis, bon, il se moque du monde. Mais à la limite, chiottes en or, bon... Ah, ça peut avoir du sens, ça peut rendre plus élégant, à un moment qu'il l'est en général très peu. Pour les hommes, car comme j'ai déjà dit à cette antenne il y a quelque temps, vous n'avez pas besoin de ce genre d'artifice, vous, mesdames, puisque vous ne faites pas caca, vous faites des nuages et des paillettes. Mais avec sa banane, le l'artiste, il a fait encore plus fort. Parce que sa banane, en l'occurrence, c'était même pas en or. C'était une banane, je veux dire, c'était même pas non plus une banane du centre de l'Amazonie, que le mec est allé cueillir en se faisant tirer dessus à l'arc à flèche par des mecs qui se mettent des sous-bocs dans la lèvre inférieure. Non. C'était une bête banane, une banane de chez
Achetée au commerçant du coin.
Ou de chez Franprix, plusieurs marques,
ou de chez Rachid.
Et paf, 120 000, quoi. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des œuvres conceptuelles. Quand je vais dans une galerie d'art contemporain, je suis modeste. D'ailleurs, je ne m'assieds jamais parce que j'ai toujours peur que les chaises fassent partie de l'exposition. Mais là, malgré mon manque d'expertise dans le domaine, le coût de la banane scotchée, ça sent quand même l'arnaque. Et je suis pas le seul. À mon avis, le riche qui a acheté ça, c'est un expert qui lui a dit non, c'est un bon investissement, c'est novateur, c'est déconstructif. Il avait ok, mais en fait, il s'y connaît pas plus que moi. On lui a fait gober le truc.
D'accord. En fait, ce que vous entendez, c'est que moins on comprend, plus on peut gober les choses. C'est ça.
Exactement, parce qu'il y a des domaines où les gens comprennent rien, alors ils acceptent. D'autres non. Par exemple, si quelqu'un te dit François Hollande est le plus grand président de la 5e République, tu fais ferme ta gueule. Alors que parce que c'est vrai. Mais parce que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Je veux dire. Mais quand tu piges que dalle, t'acceptes l'argument d'autorité. Moi, le premier, vous savez, moi, par exemple, je dis, assez rarement, mais je vais dire E égale MC carré. Bon, c'est parce qu'on me l'a dit que c'était vrai. Mais si on m'avait dit, au lieu de E égale MC carré, F égale V moins 2, enfin, je le dirais la même chose. Vous voyez, je dirais F égale V moins 2. Vous voyez, je vais dire que certains disent le contraire. Ceci dit, depuis lors, il y a eu Hiroshima, alors que pour la banane, il n'y a rien à comprendre. Enfin si, il y a un type qui a tout compris.
Ah bon ? Et qui donc ?
Eh bien, un mec qui, pour se foutre du monde, à juste titre, est venu dans la galerie où se trouvait la banane et l'a mangée.
C'est vrai.
Et pour en rajouter une couche, il a même dit « j'ai fait ça parce que j'avais faim ». Pas mal, hein ? Personne ne l'a cru, évidemment. C'est comme quand le mec a pissé dans l'urinoir de Duchamp, personne ne s'est dit « ah tiens, il avait bu des bières ». Non, franchement... il a fait ça et j'ai trouvé ça couillu. Parce que prendre un objet d'art conceptuel et l'utiliser au premier degré, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça. J'avais envisagé, quand il a mis le plug anal géant en place de la Concorde, d'aller m'asseoir dessus. Mais j'ai, assez vite renoncé au projet sur les conseils de mes amis et de mon médecin.
Oui.
Après,
au niveau échelle sociale, ça m'aurait peut-être...
Exactement. Oui, voilà.
Ça vous aurait aidé.
Mais je me moque, je me moque de cet artiste. Mais en fait, je suis jaloux. Jaloux. Pouvoir encaisser du fric en faisant des trucs incompréhensibles, c'est bien, quoi. Alors, parce qu'en humour, ça marche pas, quoi. Moi, j'ai essayé d'écrire des vannes conceptuelles, mais ça marche beaucoup moins bien que les blagues traditionnelles. Si je vous dis, c'est deux putes qui entrent dans un gobelet et la première dit « Oh là là, il fait tout noir ici », ça ne fera rire qu'un petit nombre d'initiés, vous voyez. Alors que même une blague traditionnelle un peu bas de gamme, ouais, du genre « Ah, quelle est la longueur d'un pelle à distance de mon cul à ton nez ?» qui est quand même assez vulgaire, sera plus drôle, même si elle est un peu de mauvais goût. Et je pense que je vais donc en rester aux règles de mon art, ma chère Cécile, oui, que j'espère d'ailleurs que vous m'autoriserez à exercer pour nos auditeurs le plus longtemps possible.
Et c'est avec grande joie. À la semaine prochaine.
Le meilleur de Sud Radio.
Et vous retrouverez l'humoriste Walter jeudi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio aux côtés de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec votre rubrique 5 questions pour tout savoir, le journaliste François Bousquet chez André Bercoff et les confidences étonnantes de Francis Lalanne au micro de Valérie Expert dans le 10h midi. Restez avec nous.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Si vous n'avez pas pu nous écouter cette semaine, pas de panique, puisque j'ai sélectionné soigneusement pour vous les moments les plus marquants de nos émissions. Et si vous avez loupé le débat des vraies voix de mardi, on va y revenir. Christophe Bordet et ses chroniqueurs recevaient Bernard Stalter, qui a poussé un vrai coup de gueule contre les grévistes, qui selon lui vont tuer les petits commerces. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Une question d'abord pour commencer. Les grévistes sont-ils en train de tuer les petits commerçants ? C'est un peu direct comme question, mais ça a le mérite d'être clair.
Oui, mais c'est tout à fait direct et c'est tout à fait juste. Ça fait le 2e décembre qu'on souffre. Et l'année dernière, c'était une catastrophe avec les gilets jaunes. Mmh. Et là, c'est la 2e année. Mmh. Et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Les artisans ne survivront pas à cette situation.
Oui, enfin... La question est formulée de la sorte, mais est-ce que finalement, derrière cette question, on ne pourrait pas se dire aussi, c'est peut-être Macron qui est en train de tuer les petits commerçants, puisqu'il veut faire des réformes qui ne plaisent pas à une certaine partie de la France, en tout cas, qui est dans la rue, comme vous l'avez dit, ça a déjà commencé il y a un an avec les Gilets jaunes. Il met tout le monde dans la rue, donc il y a des conséquences, y compris pour les commerçants.
Vous avez dit quoi ? Tout le monde dans la rue ?
Enfin, une partie de la France.
Aujourd'hui, on parle sur 60 millions de Français, oui, de 800 000 qui sont dans la rue.
Alors là, oui, si on regarde
prennent juste une chose.
La CGT dit 885 000 dans la manifestation nationale d'aujourd'hui et les chiffres officiels, c'est 339 000. Donc il y a un peu moins de monde déjà.
Et ils prennent la France en otage. Ils prennent l'économie française
en otage. C'est pas Macron qui prend la France en otage.
Ah, je pense pas. Ça fait plusieurs fois que la France élit des présidents pour faire des réformes.
Oui.
À un moment, il faut les faire, les réformes. Elles sont nécessaires. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toutes les réformes. Mmh. Mais est-ce qu'on peut prendre la France en otage parce qu'on n'est pas là ? Les artisans, ils sont des fois impactés par des réformes. Est-ce qu'on prend toute la France en otage ? Non.
Ben, c'est ce que vous reprochez d'ailleurs à un auditeur à l'instant, dans les messages, c'est qu'ils sont où, les artisans, les commerçants, pour descendre dans la rue, pour défendre leur beefsteak avec nous, parce qu'on a les mêmes problèmes. En gros, c'est ce que
disent les commerçants de se solidariser, le comportement est honteux, nous dit Michel sur Twitter.
Ils n'ont pas le même problème. J'étais ce matin, j'ai rencontré un syndicaliste qui conduit le TGV. Il disait, 5 jours de grève, il perd 600 euros.
Ouais.
Moi, j'ai des artisans qui ne gagnent pas 600 euros par mois. Maintenant, s'ils ferment encore ici, vont dans la rue, je crois qu'il ne faut pas comparer les emplois protégés avec un artisan qui investit...
Qui prend beaucoup de risques.
Qui prend tous les risques. Mmh. Et lui, il ne fera pas la grève demain matin parce que s'il ferme sa boîte, il n'a pas de chômage, il n'a pas un salaire garanti, il n'a pas un emploi garanti. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer des métiers protégés. Et je répète, je n'ai pas d'inquiétude et je n'ai rien contre les gens qui font la grève. Mais qu'on n'empêche pas les gens de travailler. Et là, on va tuer l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on va inciter les gens qui ne veulent pas aller à Paris en bille à aller sur Amazon, acheter dans d'autres pays, plutôt que de continuer à maintenir ce lien social.
C'est pas sûr que ce soit livré. C'est pas sûr que ce soit livré en même temps. Eva ?
Non, ce que je voulais dire, c'est que je comprends tout à fait ce que vous dites et de votre point
Parlez
de vue.
Parlez bien dans le micro, Eva.
De votre point de vue, c'est tout à fait légitime. Je comprends ça et je souffre avec les gens qui souffrent. Ok.
Vous aimez bien vos petits commerçants, vous, dans votre quartier, là ?
Hein ? Non, oui, j'aime bien mes petits commerçants. Je trouve qu'il n'y en a même pas assez. Il n'y en a pas assez.
On est d'accord.
Des petits commerçants. Voilà. Il faudrait qu'il y en ait vraiment tous les 20 mètres. Mais tout de même, s'il y a une telle révolte. Il s'agit de révolte. Il ne s'agit pas de... On ne va pas tricoter dans la rue, on ne va pas s'amuser et puis boire des pots avec des potes. Il s'agit quand même d'un investissement. Ces gens-là, qui sont dans la rue, perdent de l'argent. mais ils pensent que c'est quand même beaucoup plus important leur présence et de perdre ce petit argent plutôt que de s'engouffrer dans des choses qui vont foutre leur vie en l'air. Donc moi, ce que je crois, c'est que il y a eu... Comment voulez-vous qu'on fasse des avancées avec le peuple sans qu'il y ait des 36-1789? Vous croyez que ça a été fait sans que les petits commerçants trinquent? On ne peut pas avancer, on peut pas avancer sans dégâts. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas. Donc c'est terrible pour les petits commerçants.
Ah bah s'ils mettent la clé sous la porte, c'est sûr que c'est terrible. Hein.
Mais qu'ils viennent dans la foule. Voilà.
C'est pas possible. Mais d'une, ils pourront pas. Et vous avez peu
pourquoi,
de
salaire. Pourquoi c'est pas possible?
Mais des gens qui gagnent que 6 ans, s'ils ferment, c'est leur salaire.
Mais croyez,
qui va leur
vous
manquer.
Croyez que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent? Ils perdent beaucoup.
Certainement plus que nos artisans, madame.
Non, mais s'il y avait des gens dans la rue qui gagnaient moins de 600 euros par mois, je pense pas qu'ils seraient dans la rue. Honnêtement.
Non mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un matelas,
peut se permettre.
Non mais si vous avez un salaire de 2500 euros, qu'il y a le 13e mois qui arrive, vous le savez, qu'en plus vous avez votre syndicat qui est prêt à mettre la main à la poche pour vous donner de l'argent pour que vous fassiez grève.
Mais alors encore
c'est
une
sûr
fois,
c'est facile,
encore
hein.
une fois, pardon, bon. Mais vous croyez que les femmes qui sont dans la rue là ont
non,
des salaires
les,
corrects?
Les femmes,
mais...
c'est facile de parler toujours des femmes. Il n'y a pas que les femmes, c'est l'ensemble.
Non, c'est pas facile.
C'est l'ensemble
non,
des salariés. C'est l'ensemble des salariés.
Mais non, tu parles des mecs qui ont 2002. Je te parle des femmes. Tu prends un détail, je prends.
Mais il y a des fonctionnaires à la SNCF qui sont des femmes qui ont 2200 euros par mois, hein, ou
non,
2003 ou 2005.
Mais est-ce que vous
bien
avez...
sûr que si.
Le meilleur de Sud Radio.
Et rendez-vous avec Christophe Bordet et toute son équipe des Vraies Voix lundi à 17h sur Sud Radio. Allez, on continue avec un chanteur que vous connaissez tous qui vient de sortir un double album avec ses plus grands succès des 40 dernières années. C'est Francis Lalanne. Lundi, il était l'invité de Jacques Pessis dans Les Clés d'une Vie et il a fait des révélations plutôt étonnantes sur son mode de vie. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors, vous avez aussi révolutionné la scène parce que moi, je me souviens d'un concert au Palais des Congrès, je crois, où la première partie, la chanson faisait 1h20.
Oui, ça m'arrivait. Il m'arrivait de monter sur scène et de commencer une chanson et de partir en impro et ça pouvait durer une heure et demie.
Alors, le public adorait en plus.
Ah oui, c'était un jeu de savoir où est-ce que Francis nous emmène aujourd'hui.
Alors, je me suis un peu renseigné. Là, vous avez été battu car la chanson la plus longue du monde, Francis Lalanne, Les Flaming Lips, un groupe de rock alternatif, a fait une chanson qui dure 6 heures. Le oui. titre, c'est Found a Star on the Ground.
Oui, non, là, je me rappelle avoir fait un jour un spectacle de 4h30 avec 3 chansons, mais 6 heures avec une, non, je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait, mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit.
Et le public est resté, parce que le public, c'est votre copain, comme cette chanson, Toi, mon vieux copain.
C'était au lycée, les 3/4 de la journée, on se faisait vider. Seul dans les couloirs, on avait l'air d'être les fantômes du manoir.
Très belle chanson aussi, qui est aussi un peu autobiographique, Francis Lalanne.
Oui, bien sûr, c'est une adresse à mon copain de l'école, quand j'étais à l'école de Provence à Marseille. Et dans le disque, là, il y a 2 versions de cette chanson. Une première qui est la version studio, et puis la deuxième qui est la version avec le public, où tout le public chante cette chanson. Et c'est vraiment, pour moi, c'est des souvenirs exceptionnels. Et je suis tellement heureux que tout le monde puisse les partager avec moi grâce à justement à la publication de ce double coffret anniversaire où il y a des choses rares que ceux qui ne me connaissent pas vont pouvoir découvrir aussi en même temps que ceux qui me connaissent et qui attendaient depuis longtemps qu'on puisse les trouver sur un CD.
Oui, car vous êtes fait un public très très vite, Francis Lalanne, qui restait très fidèle.
Oui.
Public à part.
Oui, et c'est ce qui m'a donné cette liberté. De pouvoir dire ce que je veux dire, faire ce que je veux faire, changer de domaine d'expression, vivre toutes ces expériences, en ayant toujours mon public, parce que c'est lui, en fait, qui m'a donné la vie, qui m'a donné l'envie et qui la possibilité d'être l'artiste que je suis aujourd'hui.
Alors, au départ, vous faites connaître par vos chansons, mais aussi par des tenues, vos cheveux longs, vos cuissardes. On dit que vous êtes un troubadour, que vous êtes d'un autre temps.
Oui, à l'époque, quand je démarre, c'est surtout, je suis habillé en indien. Je suis passionné par les Indiens, l'indianisme. J'ai rencontré Marlon Brando à l'époque où lui-même l'était. Il m'a transmis le virus. Enfin bref, celui-là seulement. Et voilà.
Et alors, vous achetez vos vêtements dans des friperies et vous achetez un vêtement et vous laissez l'autre en échange.
Oui, parce que j'ai pas de lieu. Je n'habite nulle part. Donc, je peux pas stocker. Donc, j'achète de quoi me vêtir une semaine et puis après une autre semaine. Et puis, je laisse les vêtements comme un lézard. Laisse ses peaux de lézard quand il mue. Moi, je laisse mes vêtements derrière moi et j'en prends de nouveau, j'en prends d'autres.
Francis Huster faisait un peu comme vous à ses débuts. Il avait un pyjama et au-dessus un costume. Dès que le costume était usé, il le jetait, il allait en jeter un autre et il vivait dans les loges des théâtres aussi.
Moi, je ne jette pas, je donne. C'est-à-dire, vous voyez, je donne soit dans une friperie, je laisse dans une friperie, soit je donne à quelqu'un, soit je... Mais oui, autant ne pas s'encombrer, autant recycler ou autant ne pas s'encombrer de choses, finalement, superfétatoires.
Et puis, il y a une chanson qui est aussi sur cet album, qui montre votre côté hippie dans l'âme, à votre façon, fais-moi l'amour, pas la guerre.
Fais-moi l'amour.
Ça, c'est aussi important pour vous, Francis Lalanne.
Oui. Je pense qu'un artiste, son rôle dans la société, c'est d'émouvoir, de distraire, hein, au sens de divertir, même au sens pascalien du terme, et d'alerter. Hein. Donc l'alerte, l'engagement, ça a toujours été... pour moi, un point très important dans mon écriture. Hein, j'écris, par exemple, en 1983, j'écris « Le vent qui souffle sur la France souffle, dit-on, en liberté, mais prend bien garde aux apparences, car un jour le vent peut tourner ». J'écris ça. Mais j'écris aussi « La maison du bonheur », j'écris aussi « On se retrouvera ». Pour moi, émouvoir, c'est important, distraire, c'est important, divertir, c'est important. Et puis aussi, s'engager par la chanson, c'est important. Mais tout ça.
Oui, et en même temps, en voyageant beaucoup, parce que quand vous disparaissez, c'est pour aller travailler ailleurs. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous êtes un travailleur infatigable.
Infatigable, je travaille 365 jours par an. Et dans le monde entier. Alors c'est vrai que là, je me suis un petit peu absenté des routes de France parce que je travaille plus à l'étranger, mais je reviens là maintenant. Là, je suis pour 120 dates en Belgique.
Avec un spectacle où vous chantez des chansons françaises.
Oui, des chansons de moi, mais aussi de mes confrères, ouais. Hein, que j'estime, que j'admire tant. Léo Ferré, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Serge Lama, enfin bref, et Charles Trenet. Le grand Charles Trenet que vous avez si bien connu.
Oui.
Et voilà. Et donc, c'est...
Ça s'appelle la boîte à chansons.
La boîte à chansons. C'est un théâtre ambulant qui va de ville en ville à la rencontre du public. Oui, je reviens un petit peu en France de plus en plus. En tout cas, je reviens dans les studios. Parce que je prépare aussi une nouveauté. Et ce disque, ce coffret anniversaire, il est là aussi, et je dirais avant tout, pour marquer ce retour vers les studios.
Le meilleur de Sud Radio.
Jacques Pessis, que vous retrouverez lundi à 13h20 sur Sud Radio dans Les Clés d'une Vie. Allez, on va se retrouver dans une poignée de minutes pour la suite du meilleur de Sud Radio, avec la séquence 5 questions pour tout savoir, le journaliste François Bousquet chez André Bercoff et une invitée prestigieuse dans le 10h midi, l'animatrice Faustine Bollard. Restez avec nous.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdine.
Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Comme tous les week-ends, je vous accompagne sur les meilleurs moments de la semaine. Et avant de poursuivre avec André Bercoff et Valérie Expert, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Je vous ai choisi un titre sorti en 2000, interprété par la chanteuse canado-portugaise Nelly Furtado. Voici I'm Like a Bird sur Sud Radio.
You're beautiful. That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
I don't know.
C'était Nelly Furtado dans le meilleur de Sud Radio avec I'm Like a Bird, premier single extrait de son album Wow Nelly. Allez, on poursuit avec votre chronique 5 questions pour tout savoir. Lundi, Cécile de Minibus recevait le docteur Fabien Guèze à l'occasion de la sortie de son livre Tous guéris dans 10 ans. C'était dans le Grand Matin Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio.
Tous guéris dans 10 ans. Pourquoi ? Parce que bah forcément, la médecine évolue très très vite et que ça va nous permettre d'anticiper pas mal de choses.
Tout à fait. Et quand je dis tous guéris dans 10 ans, c'est tous guéris dans les 10 ans. Il se peut que d'autres pathologies soient soignées avant les 10 ans. Comme vous disiez, les nouvelles technologies vont faire qu'on va mieux prévenir, on va mieux prédire certaines maladies, on va mieux les prévenir, on va mieux les diagnostiquer, et puis surtout, on va mieux les traiter.
Alors vous, c'est 15 ans d'études, 25 années de pratique, vous ne cessez d'apprendre, vous le dites, parce que ça évolue tout le temps, et vous avez l'impression de vous sentir utile, ce qui est le médecin, finalement.
Enfin, on s'est toujours senti utile, heureusement, ça n'a pas changé, et ça ne va pas changer, en fait. Ces nouvelles technologies, elles vont... permettre d'améliorer le temps que le patient va prendre avec son médecin. C'est-à-dire la relation médecin-patient humaine, elle aura plus de place puisque les technologies vont permettre au médecin d'avoir plus de temps avec son patient.
Alors on va commencer par la formation parce que forcément la formation va commencer. Vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez une formation dans des livres. Aujourd'hui, c'est vraiment la réalité augmentée et on est vraiment, d'abord c'est plus ludique et on a l'impression qu'on rentre plus dans le détail et qu'on sera peut-être mieux formé.
Complètement, on a maintenant pendant les études, moi j'étais obligé d'aller piquer mes bouquins à la bibliothèque de médecine, là, tandis que maintenant on a ce qu'on appelle...
Bah, c'est vrai, on a tout. Ouais.
Bah oui, tous, nous tous, pendant nos études en 1845.
On parle d'un temps où les moins de 20 ans, allez-y,
exactement.
On vous écoute.
C'est vrai que maintenant, dans nos études, on a ce qu'on appelle la simulation. On dit maintenant, le slogan, c'est jamais la première fois sur le vrai patient. On a maintenant la possibilité de simuler des interventions. On a des applications qui permettent de s'amuser en diagnostiquant des patients. Tout ça fait que... l'étudiant est formé, beaucoup mieux formé qu'on ne l'était, et surtout plus rapidement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure 15 ans d'études et 25 ans de pratique, ça veut dire qu'on pourra considérer que les médecins qui arrivent sur le marché auront déjà un peu de pratique, puisque c'est vraiment, pour le coup, une formation continue.
Bien sûr, complètement. Je veux dire, le médecin dans 10 ans n'aura pas du tout la même pratique que nous.
Ils seront meilleurs que vous ?
Ils seront bien sûr, ils seront meilleurs. Heureusement parce qu'ils seront moins nombreux. Donc ils seront obligatoirement, ils seront obligés d'être meilleurs parce que encore une fois, les nouvelles technologies vont les aider donc
les éveiller,
dans la pratique quotidienne.
Alors on parle bien sûr du diagnostic et c'est aussi le problème des médecins. Vous parliez aussi du diagnostic qui est lié à la lecture par exemple d'un électroencéphalogramme et aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle va faire que forcément il y aura plus de précision et peut-être moins d'erreurs.
Alors, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la révolution qui utilise les millions de data pour justement apprendre grâce à un algorithme, à une machine de diagnostiquer. Et les études montrent que, les statistiques montrent que l'intelligence artificielle, couplée à l'imagerie, permet de mieux diagnostiquer plus rapidement, plus facilement, aussi bien les faux positifs que les faux négatifs. Hein, parce que parfois, on peut diagnostiquer un cancer de la peau alors qu'il n'y en a pas. L'intelligence artificielle fait...
Bah, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'une radio pourrait faire penser à un cancer de la peau.
Donc il faut être prudent par rapport à l'imagerie, ce que vous dites quand même, quoi. C'est-à-dire que l'ensemble en fait, de la technologie nous permet de progresser énormément, mais on va tout déceler, y compris des choses qui ne seront peut-être pas dangereuses. Quoi, à terme.
Même une maladie qui n'est peut-être pas encore déclarée.
Effectivement, donc on parle parfois de surdiagnostic. En fait, l'imagerie est si sensible qu'elle peut trouver une espèce de nodule qui pourrait mesurer un millimètre et qui peut-être aurait évolué favorablement sans qu'on ne le touche. Donc il faudra évidemment faire la part des choses... Mais par rapport au bénéfice de l'intelligence artificielle.
C'est passionnant parce que en fait, tout est expliqué. On parle bien sûr de la prévention, qui est un peu l'enfant pauvre aujourd'hui de la médecine. Parce qu'elle n'est pas prise en charge. On parle aussi de l'intelligence artificielle à bon escient et à mauvais escient aussi, parce que ça va créer un problème justement sur les données médicales qui vont être entre guillemets en libre service ou pas. Donc ça va générer aussi d'autres soucis.
Bien sûr, alors. L'intelligence artificielle utilise les données. Oui. Il faut évidemment que ces données soient fiables,
sécurisées.
Mmh. Ça va être évidemment le grand enjeu de ces 10 prochaines années. Maintenant, heureusement, je veux dire, on a aussi d'autres techniques qui permettent de sécuriser certaines données. On a par exemple la blockchain, difficile à expliquer, mais la blockchain va permettre de sécuriser, d'authentifier, de certifier des données. Donc, effectivement, on a toujours peur des GAFAM, etc. Oui. Enfin, ce sont les GAFAM qui ont boosté les gouvernements, qui les ont poussés à agir, à évoluer. Donc, de toute façon, lorsque vous écoutez, lorsque vous êtes sur votre smartphone, lorsque vous avez une appli, lorsque vous êtes sur une balance connectée, vous envoyez vos données allègrement.
Oui, bien sûr, un petit peu
donc,
partout.
Il faudra, ce sont des données qui sont de bien-être, pas tellement de santé, mais il faudra effectivement faire attention de sécuriser, de fiabiliser ces données.
En tout cas, vous pouvez tout retrouver dans ce livre, hein, puisqu'on vous explique en détail justement sur la dermatologie, enfin sur la médecine augmentée, en fait, tout ce qui va arriver demain, qui va vous permettre effectivement des diagnostics avant et de soigner, parce qu'aujourd'hui, votre problème, vous le dites, c'est cette frustration, c'est que vous pouvez repousser la maladie, mais parfois pas soigner, peut-être que demain, on arrivera à la soigner.
C'est vrai qu'on soigne, on corrige certaines pathologies, mais on ne les guérit pas. Par exemple, l'hypertension artérielle, je vous donne un traitement, si j'arrête le traitement, la tension remonte. Mmh. Alors on va pouvoir bientôt guérir certaine maladie.
Mais alors on va devenir éternel. Nous serons éternels demain. Donc.
Ah, qui sait, hein, qui sait, qui sait. Et puis après,
tous guéris dans 10 ans, en tout cas.
On va allonger la durée de vie, donc forcément, ça va créer aussi d'autres pathologies chroniques. Puisque un Français sur trois a un problème avec ces pathologies chroniques, quand même. Hein. On en parlera tout
bien
cas.
Bien sûr.
Ouais, donc merci d'avoir été avec nous ce matin, c'est passionnant. Vous allez voir, ça se lit au début, à la fin, au milieu. Vous regardez, c'est très intéressant. Ça s'appelle Tous guéris dans 10 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle avec le docteur Fabien Guez. Merci d'avoir été avec nous.
Le meilleur de Sud Radio.
5 questions pour tout savoir, c'est tous les jours à 9h50 dans le Grand Matin Sud Radio. Si vous avez raté l'émission de jeudi d'André Bercoff, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Le journaliste essayiste François Bousquet est venu nous parler de son tout nouveau livre « Courage, manuel de guérilla culturelle ». On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Oui, je suis toujours avec François Bousquet, journaliste essayiste, cofondateur de la nouvelle librairie à Paris. On va parler d'ailleurs, c'est très bien toujours d'ouvrir une librairie, et auteur d'un livre très intéressant, je dirais, Courage, manuel de guérilla culturelle, vraiment à lire, parce que ça trace des pistes, et justement, ça sort des sentiers battus, et surtout, j'aime bien, je déteste parler anglais ici, vous le savez, mais il think out of the box, ça veut dire il pense en dehors de la boîte, et c'est très important de penser en dehors de la boîte. Revenons à des exemples, par exemple, François Bousquet, est-ce que c'est cette histoire de manque de courage, est-ce que c'est parce que on nous a tous mis un peu dans les langes, est-ce que c'est des générations d'assistés, bon c'est bien l'assistanat, mais jusqu'à un certain point, est-ce que c'est ça qui nous a désarmés, au vrai sens du terme?
On est désarmés, on est, parce qu'on est materné, on l'est depuis un demi-siècle, sinon plus. Peut-être que ça s'est produit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. En tout cas, dans les années qui ont suivi, les Trente Glorieuses, la société de consommation, d'abondance, hein, tout cela fait que le prix de la vie a changé de nature, puisqu'on attachait beaucoup plus de prix à la vie, et pour cause, elle était confortable. Hein. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. On s'est installé dans des formes de prudence, dans des formes de discrétion, d'invisibilité. Moi, je crois que c'est pas la bonne stratégie. Je crois qu'au contraire, il faut s'afficher, il faut afficher ses idées. Il ne s'agit pas de les jeter au visage de la personne avec qui on parle. Je trouve que la stratégie adoptée par les homosexuels, hein, qui est vieille de 150 ans, elle n'est pas vieille de 30 ans.
C'est-à-dire la stratégie
du coming out, hein, c'est-à-dire sortir des toilettes.
Hein, dire ce qu'on est.
Dire ce qu'on est. Ouais, les homosexuels ont mis ça alors qu'ils vivaient en France, qui était un des pays les plus tolérants pour l'homosexualité, mais qui vivait malgré tout dans une forme de semi-clandestinité,
de ghettoisation,
ce dont souffrent aujourd'hui les droites radicales, entre autres les droites identitaires, la ghettoisation, ont fait le choix, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, de sortir des toilettes, de s'afficher. Et en s'affichant, ils ont pris des risques. Il ne faut pas s'imaginer que ça a été d'un grand confort. Ils se sont aliénés leur famille, souvent leur père, souvent leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Mais ils ont privilégié une forme d'identité qui n'a pas sa place, en plus, dans l'espace public. Donc, c'est une identité sexuelle.
Ça, c'était du courage.
Mais c'était du courage, évidemment. Ouais, il suffit de lire Pasolini pour voir les grands auteurs homosexuels, pour voir à quel point ils ont été courageux pour défier.
Oscar Wilde, etc.
Accueilli en France, cela étant, parce que le régime était beaucoup plus tolérant. Mais c'est Proust en France. Hein. Mais donc, il y a eu une prise de risque. Hein. Et cette prise de risque, on revient à Nicolas Nassib Taleb, elle rapporte. Hein. C'est que ce pari-là, le pari du risque, est un pari sur lequel nous pouvons capitaliser. Alors évidemment, ils ont perdu certaines choses, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné en échange? Ils ont gagné un statut, ils ont regagné une reconnaissance sociale. Hein.
Alors,
à tel point que ça s'est renversé. On est passé de la condamnation de l'homosexualité, en tout cas dans des formes euphémisées, à la condamnation de l'homophobie. Donc ça veut dire qu'il y a un renversement de l'interdit qui s'est produit.
Le balancier qui va de l'autre côté. Voilà. Justement, ce que vous dites, effectivement, par rapport à l'homophobie et autres... Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors justement, vous expliquez par le même balancier ou pas cette espèce de régression dans la liberté d'expression. On ne peut plus, on le dit du matin au soir, mais c'est vrai, on ne peut plus rien dire par rapport à ce que disaient Coluche, Desproges, Harakiri, Charlie Hebdo, et puis les feuilles anarchistes du début du siècle. Enfin, je veux dire, le père Fouettard, etc. Enfin, toutes ces trucs formidables.
Le père Duchesne, l'assiette au beurre.
Laurent Taillade, Zodaxa, etc. Enfin, qu'on ne connaît plus maintenant.
Vous maîtrisez bien vos fondamentaux d'homme d'anciennement de gauche.
Non, mais c'est vrai, c'est pas. C'est-à-dire que moi, c'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de pensée libre, et non pas de libre-pensée parce que ça a été capitalisé.
C'est autre chose. Ouais.
C'est autre chose. Mais qu'est-ce qui fait, pour vous, qu'il y a eu, comme ça, en quelques décennies, cette espèce de régression de la liberté d'expression que nous, à Sud Radio, on essaye à toute force de protéger.
Mais vous êtes globalement une exception au Sud Radio. Alors, il y a quelques émissions, il y a Sud Radio et quelques émissions dans le paysage, l'univers du PAF, des médias centraux. Ouais. Ils sont de moins en moins nombreux. Je crois qu'on retombe mécaniquement sur la question du courage. Hein. Les courageux se sont tus. Les courageux ont laissé faire. Les courageux ont laissé parler. Les dindes. Hein. Je trouve que la situation, quand vous évoquiez cette chose suraliste sur le Judas, moi, ça, la situation aujourd'hui me fait penser à la révolution culturelle en Chine, au mort près. Parce qu'il n'y a pas les morts. Il n'y a pas les morts. Mais on atteint le même délire surréaliste.
Un mot fait qu'on ne peut plus dire.
Rappelez-vous, Mao voulait attaquer les quatre grandes vieilleries. Et il s'est mis à détruire les temples confucéens. Ça a été un massacre, du reste. On a détruit l'ancienne religion chinoise. Mais surtout, ce qui est frappant, et beaucoup d'Asiatiques le disent, c'est qu'on était au cœur de la pièce d'Alfred Jarry. Au cœur du bureau. Ça dépassait le cadre du surréalisme. C'était ubuesque. Hein. Votre professeur, un mandarin, on le giflait dans la rue. On gifle aujourd'hui des professeurs sur les campus américains. Pour des détails, mais infinitésimaux. Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas reculer sur cette question du courage. Hein. Il faut, au contraire, aller au-devant de ces gens-là. Les attaquer, les renvoyer à leur néant, les renvoyer à leur insignifiance, les renvoyer à leur hystérie. C'est qu'on n'a plus affaire à Torquemada, c'est des Torquemadettes. Hein. Oui. Elisabeth Lévy parlait un jour de Robespierrette. Hein. Oui. On est confronté à des Robespierrettes, à des Wyszynski qui sortent de...
Ou des Tartuffettes.
Ou des Tartuffettes, voilà, des aussi, Tartuffettes.
Ouais. Et non pas des Tartiflettes. mais pour revenir à ça, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose, justement, est-ce que nous ne cédons pas à cette espèce de passivité, parce qu'il y a aussi, vous dites le contraire du courage, c'est la lâcheté, mais il y a aussi cette passivité de dire, de toute façon, moi c'est ça qui me frappe chez beaucoup de gens, on ne peut rien faire, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est comme ça, on ne peut rien faire est absolument castrateur.
Il nous tue, il nous plonge dans des formes de léthargie, au fond de mort historique, puisque la fin de l'histoire c'est ça, on a renoncé à la faire. Moi, comme vous, je suis entouré de gens qui me disent tout est foutu. Mais à la fin, maintenant, je finis par leur dire, mais si vous dites que tout est foutu, c'est parce que vous ne voulez rien foutre. Faites quelque chose, engagez-vous, ça n'est pas perdu. Quand bien même ça le serait, c'est pas grave, allez au combat. Et quand je dis aller au combat, c'est que je demande pas aux gens, je suis pas Achille, je suis pas un super-héros, je me contente de tenir une librairie qui est attaquée régulièrement par des antifas qui nous cassent la vitrine. Il n'y a pas péril de mort.
Vous avez été attaqué plusieurs fois.
Là il y a encore...
Librairie, je le dis, est à Paris, rue de Médicis, dans le 6e arrondissement.
En face de la fontaine la fontaine Médicis du jardin de Luxembourg. Je veux dire par là que nous, en tant que libraires, nous sommes attaqués, physiquement attaqués, mais nous ne sommes pas en péril de mort. Je ne vais pas être ruralisé en Mandchourie intérieure, je ne vais pas être déporté au fin fond du goulag. Hein. C'est-à-dire que les risques sont marginaux. Il y a des risques, mais ils sont marginaux. Mais il ne s'agit même pas de prendre ce risque-là. Il s'agit, dans la réunion de famille, de dire pour qui on vote en toute liberté. Il s'agit de dire le matin à la pause café pour qui je vote. Et je pense évidemment au RN, au Rassemblement National. Je veux dire par là, c'est que j'en viens à faire la blague suivante. C'est la formule de Yuri Gagarin. Le Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, comme journaliste, je n'ai jamais rencontré publiquement d'électeurs du Front National.
Le meilleur de Sud Radio.
Et André Bercoff revient lundi à midi sur Sud Radio. Surtout restez avec nous, on va revenir dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec une invitée exceptionnelle, l'animatrice Faustine Bollaert, qui est partout en ce moment avec son émission La Boîte à Secrets et la grande soirée du 31 décembre de France 2. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio.
Merci d'être avec nous pour la suite du meilleur de Sud Radio. Comme chaque week-end, je vous ai sélectionné tous les moments forts de cette semaine. Et avant de retrouver l'interview de Faustine Bollaert au micro de Valérie Expert, je vous propose d'écouter un titre sorti en 2016. Son interprète a reçu la victoire de la chanson originale lors de la 32e cérémonie des Victoires de la Musique. Voici Vianney avec Je m'en vais sur Sud Radio.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre entre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid. Donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
Je m'en vais dans le meilleur de Sud Radio, premier extrait du deuxième album de Vianney, certifié disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Allez, on va terminer avec une invitée de marque dans le 10h midi, c'est l'animatrice Faustine Bollard. Jeudi, elle a répondu aux questions de Valérie Expert et de Gilles Gansman au sujet de son émission La Boîte à Secrets. Le prochain numéro sera diffusé le vendredi 20 décembre sur France 2 et à propos de la grande soirée du 31 décembre qu'elle animera avec Sophie Davant et Daphné Burkier. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
On est avec Faustine Bollard jusqu'à encore quelques petits moments sur Sud Radio pour parler de cette émission La Boîte à Secrets, vendredi 20 décembre à 21h. C'est typiquement l'émission qu'il vous faut pour bien démarrer la période des vacances. On rappelle, ça commence aujourd'hui tous les jours à 14h et puis on vous retrouvera le 31 décembre aux côtés de Sophie Davant et Daphné Burki. Mais toujours La Boîte à Secrets, parce que c'est vrai qu'il faut le repréciser, c'est une émission, une création française pour une fois.
C'est pas un format adapté.
C'est pas un format adapté, ce qui est quand même la... Mais il y a un boulot de préparation énorme derrière, non ? Pour arriver à surprendre des gens comme Dave, ou des Dave, Florent Pagny, qui sont des gens qui, ça fait 40 ans qu'ils font de la promo.
C'est compliqué, en effet. On a une équipe de formidables de journalistes, et puis on a des producteurs, Jean-Philippe Monnier et Nguyen aussi, qui ont rassemblé toutes leurs forces vives pour essayer d'aller faire parler les proches. On essaie vraiment d'aller fouiller, on décortique les bios pour essayer d'aller trouver le petit truc sur lequel on va pouvoir
voilà, jouer et puis essayer de construire une surprise visuelle autour. Donc c'est vrai que c'est un travail extrêmement compliqué. Dès que les invités sont arrêtés, c'est vraiment des dizaines de journalistes qui travaillent nuit et jour. Puis jusqu'au dernier moment, on se demande si la surprise va tenir la route, si personne va vendre la mèche. Donc c'est un vrai travail. Et puis c'est vrai, il faut réussir à surprendre. Ouais. Florent Pagny et Dave, notamment, qui sont quand même des bêtes médiatiques. On leur a tout fait, des surprises, ouais, ils en ont vécu plein. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais de temps en temps, parfois, vous allez voir dans l'émission, il y a quelques secondes où on sent qu'ils sont pris par une émotion réelle, sincère. Vous allez voir juste après, ils reprennent un petit peu leur rôle de bête médiatique, mais ces quelques secondes hors du temps, où on voit dans leur regard une réelle émotion, une vraie surprise. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. C'est...
Est-ce qu'il faut les aimer, les invités qu'on reçoit ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir
De l'empathie, de la curiosité. Moi, je regarde des dizaines d'émissions de télé, ouais. J'écoute des émissions de radio. Donc, quand on s'intéresse réellement aux gens, à leur histoire, c'est difficile quand même de ne pas les aimer. Ouais. On a souvent un a priori, une façon de parler qui nous agace, une chanson qui ne nous plaît pas. Et après, quand on prend vraiment le temps, quand on rentre, moi, c'est rare que je me dise. Alors, après, il y a des a priori, voilà, des gens où je me dis, est-ce que j'ai une vraie curiosité ? Moi, par exemple, Slimane. Vous me disiez Slimane, je ne connaissais pas, c'était le mec qui était dans The Voice, point barre. Mais quand j'ai fouiller son histoire, je suis tombée des nues de découvrir son passé, les difficultés qu'il avait eues dans le restaurant pour gagner sa vie. Et la façon dont il l'a raconté m'a bouleversée. On a reçu toute sa bande de copains. Et depuis, j'ai une affection pour ce garçon et pour son histoire qui est très forte. Donc en fait, on se laisse toujours séduire. En fait.
Est-ce que finalement, ça ne mériterait pas le direct ?
C'est chaud quand même en direct.
Ouais, une surprise.
Si, ça pourrait bien sûr. Après, à cadrer, c'est compliqué parce que c'est quand on accouche
il y a de la
des
préparation,
gens. Ouais, puis quand on accouche des gens, parfois il va me falloir même dans l'émission, ouais, 10 minutes pour obtenir les 3-4 minutes qui sont vraiment savoureuses. Et après, au montage, on peut quand même alléger le début qui est un petit peu où les gens ont un peu de langue de bois, où ils ont du mal à me faire confiance. Donc, je trouve quand même que là, on arrive à la sève de la sève. Je suis pas sûre que ce soit une émission qui va. Bon, après, on peut, hein, mais je suis pas sûre que ça mérite spécialement le direct.
Valérie disait tout à l'heure que vous étiez battue pour faire de la télé. Maintenant que vous êtes connue, vous êtes heureuse d'être connue ? Vous avez réussi à...
C'est pas la même chose de faire de la télé et d'être connue. Hein. Faire de la télé...
Il y avait les deux dans ce que vous vouliez.
Oui, alors je suis rassasiée de notoriété parce que clairement, tous les animateurs ont une faille narcissique béante pour pouvoir faire ce métier, avoir envie d'être aimé du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir ce regard du public qui me fait du bien. Moi, personnellement, dans mes failles et mes problèmes personnels. Maintenant, ça va, je suis rassasiée de ça. Après, la télé, ça me passionne toujours autant, encore plus qu'à 20 ans, et j'espère être là dans 20 ans, interviewée par vous dans 20 ans,
Michel
peut-être.
Michel Drucker.
Ouais, c'est
avoir
ça.
Une carrière. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme émission ?
Ah, comme émission, je suis très embêtée quand on me pose cette question parce que en fait, j'ai fait exactement les émissions que je voulais faire.
Oui,
donc
ça,
moi, je voudrais juste
émissions de confidence,
les émissions de confidence, la boîte à secrets. Ouais. Pareil, cette émission est sur mesure pour moi. Donc, en fait, j'ai pas tellement d'autres ambitions que ça dure pour le moment. Ouais. Je parle en télé, j'ai plus des ambitions personnelles ou de m'épanouir aussi. Peut-être que ça fait des années qu'on me propose d'écrire un livre ou de m'épanouir encore une fois dans de l'artistique plus personnel. Et je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter. Peut-être que c'est l'âge venant, ou mes 40 ans, où là je commence à dire que peut-être je commence à avoir des petites choses, des combats que j'ai envie de mener, des choses pour lesquelles j'ai peut-être envie de prendre la parole. Je me sens un peu plus légitime, mais ça commence, on va dire, ça pointe son nez. Mais je suis admiratrice des animatrices, comme j'ai vu qu'Agathe Le Caron, elle avait monté sa boîte de vêtements. Sandrine Quétier, je la vois en permanence sur son Instagram maquillée avec ses chants. Moi j'adore tous ces animateurs qui ont une vie un peu à côté et qui arrivent à s'épanouir.
Vous voulez chanter?
Non, écrire. Et alors, par exemple, j'ai envie de faire du doublage. J'ai vu qu'Alessandra Sublet, elle avait doublé un film de Disney, Famille Adams, ou je ne sais plus si c'est des Disney d'ailleurs, mais un film d'animation. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Mais voilà, j'attends un peu qu'on vienne vers moi. Je suis encore un peu pas très sûre de moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Je commence à être attirée par ça.
J'ai lu un peu avant de préparer l'émission et j'ai appris quelque chose que je n'imaginais pas. En fait, le Stade Bollaert. À Metz, c'est quelqu'un de votre famille.
C'est à Lens, et en effet, c'est mon arrière-grand-oncle.
Très sud calé en foot.
C'est vrai, je vois ça. C'était mon arrière-grand-oncle, en effet.
Et donc, quand on dit au Stade Bollaert, c'est...
Eh ben voilà, c'est un peu... c'est un hommage à mon aîné, à mon aïeul, à mon ancêtre. Et c'est drôle, parce que je suis rentrée à Télé 7 jours, parce que j'ai écrit une lettre à Patrick Mahé, qui était directeur de la rédaction à l'époque, qui est fou de foot, et qui a juste vu mon nom de famille. J'étais pistonnée par personne, et qui m'a juste dit, est-ce que vous avez quelconque rapport avec le Stade Bollaert ? Je dis oui, c'est mon arrière-grand-oncle qui me dit, je vous attends lundi matin.
Donc j'ai été pistonnée par quelqu'un, par mon ancêtre, exactement.
Le meilleur de Sud Radio.
Valérie Expert et Gilles Gansman que vous retrouverez bien sûr lundi à 10h. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain. Et si vous voulez réécouter l'émission, direction notre site sudradio.fr, rubrique podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Schrein-Girma pour C'est ça la France. Puis ça sera Invino avec Alain Marty. Passez un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio. Ciao.